Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Nous reprenons notre étude sur le livre de l'Exode au début du chapitre 14. Claude va commencer en nous parlant du contexte de ce livre et de l'histoire qui nous révèle jusqu'au chapitre 13. Claude, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Merci Yann, et bonjour à tous. Après avoir vécu de longues années de souffrance en Égypte, le peuple de Dieu se trouve enfin libre. En Égypte, il était réduit à l'esclavage et soumis aux travaux forcés, mais Dieu est miraculeusement intervenu en la faveur de ce peuple, car après une série de fléaux terrifiants, le Pharaon a cessé de résister à la volonté de Dieu et il lui a permis de partir. La dernière fois, nous avons rejoint ce peuple tout au début du voyage qu'il devait entreprendre à travers le désert pour se rendre au pays de Canaan. Nous avons alors appris que Dieu leur a dévoilé des signes concrets de sa présence et qu'il était une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. À travers ces signes, Dieu conduisait son peuple.
Nous allons l'apprendre tout de suite. Le peuple de Dieu n'était pas tout à fait à l'abri de tout danger. Sandra va nous lire la suite du récit, qui se trouve au chapitre 14 du livre de l'Exode, les versets 1 à 9.
L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. « Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tsephon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera, « Les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon, et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. » Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On vint informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre !» Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites, qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée, les atteignirent près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tsephon.
Merci Sandra. À présent, Claude va nous aider à mieux comprendre ce récit biblique. Il commencera en répondant à la question que voici. Pourquoi le Pharaon s'est-il mis à la poursuite du peuple d'Israël?
Il est vrai que le Pharaon et ses hauts fonctionnaires ont changé d'avis. Quelques jours auparavant, ils avaient en effet supplié le peuple d'Israël de partir, dans l'espoir que les fléaux qui affligeaient l'Égypte s'arrêtent. Mais voilà que quelques jours plus tard, alors que la grosse crise est passée et qu'ils commencent à se remettre de leurs épreuves, le Pharaon réalise la portée de sa décision. Il vient de perdre la plus grande partie de sa main-d'œuvre. Le Pharaon avait besoin du travail de ses esclaves pour construire de grands monuments glorifiant sa grandeur. Avec le départ de ses esclaves, chacun devait se demander comment ces grands travaux allaient être achevés. L'honneur et la gloire du Pharaon étaient en jeu. Celui-ci ne pouvait plus se faire à l'idée d'un si grand échec, et donc il décide de rassembler une armée constituée surtout de chars et de troupes, parmi les plus rapides et les plus puissantes de son époque. pour partir à la recherche du peuple hébreu qui semble s'égarer dans le désert. Nous aussi, nous pouvons agir de façon semblable. Parfois, nous pouvons prendre une décision ou faire une promesse à Dieu en lui exprimant un vœu, simplement parce que nous nous trouvons dans une situation douloureuse et nous pensons ainsi nous en sortir. Et puis, une fois que nos circonstances ont changé, la tentation existe de revenir sur nos engagements, car, en réalité, nous n'avons jamais réellement eu envie de les tenir. Gardons-nous de prendre de telles décisions qui ne sont pas sincères et sur lesquelles nous pouvons facilement revenir. De telles décisions ou engagements ne sont pas motivés par une foi et une obéissance authentiques.
Merci Claude pour cette leçon intéressante. Cependant, il apparaît dans le récit lu que c'est Dieu lui-même qui a rendu le cœur du pharaon obstiné. Dans le passé, nous avons déjà parlé de la signification de ce passage biblique. L'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon. Mais il serait bien de nous le réexpliquer.
Oui, je comprends le problème. On peut se dire qu'il est injuste de blâmer le pharaon si Dieu lui-même a rendu son cœur obstiné. Je réponds qu'il est possible d'aborder cette question ainsi. Tout le livre d'Exode nous montre que le pharaon était un homme puissant et cruel qui voulait à tout prix s'accrocher à son pouvoir et qui manifestait son opposition à Dieu en opprimant son peuple. Pharaon était, de par sa nature pécheresse, un homme obstiné et endurci. Alors, comment comprendre dans ce contexte la phrase « Dieu rendit le cœur de Pharaon obstiné » ? Je vois les choses ainsi. Dieu a en effet maîtrisé les événements de façon à révéler ce que le cœur de Pharaon était réellement. Dieu a conduit son peuple à travers le désert jusqu'aux abords de la mer Rouge. Puis, le Pharaon a appris que ses anciens esclaves erraient dans le désert et cette nouvelle a rallumé l'obstination contenue dans son cœur et l'a poussé, une fois de plus, à vouloir prouver qu'il était bien plus fort que Dieu. Nous verrons dans la suite de ce récit que cette tentative de s'opposer à Dieu allait, elle aussi, rencontrer un échec.
Merci pour cette approche. Elle nous aide à mieux comprendre la relation qui existe entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Le pharaon était responsable de ses actes et nous n'avons pas à blâmer Dieu. Claude, vous avez une dernière remarque à faire, je pense.
Oui, le texte nous révèle pourquoi Dieu a ainsi livré le pharaon au désir de son cœur. C'est presque comme si Dieu l'avait posé un appât sur un fil de pêche et le pharaon, parce qu'il avait le cœur obstiné, y a mordu. Dieu avait prévenu Moïse sur ce qui allait se passer et lui avait annoncé « Je manifesterai ma gloire ». La gloire de Dieu est un des thèmes principaux du livre de l'Exode, car nous y rencontrons un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se fait connaître. À travers tous ces événements extraordinaires qui se déroulent sous nos yeux, nous y rencontrons le Dieu de gloire. Dieu dévoile sa grandeur, sa renommée et toute la beauté et la majesté de son caractère. Dieu révèle qu'il est le plus fort, qu'il est le Tout-Puissant, car il finit par renverser tout pouvoir qui ose s'opposer à lui, que ce soit les idoles et les esprits ou les puissances humaines, telles que les tyrans et les dictateurs. Dieu révèle aussi qu'il est le Sauveur. Il a compassion de son peuple qui souffre, et il vient à son secours. Il est fidèle à ses promesses, et il réalise tous ses engagements. Oui, le livre de l'Exode le prouve maintes et maintes fois. Nous avons un Dieu glorieux.
Merci Claude. La gloire de Dieu est un thème qui revient tout au long de la Bible. À présent, notre invité Didier va nous dire comment Dieu a manifesté sa gloire dans le Nouveau Testament. Didier, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Pour répondre à la question « Comment Dieu manifeste-t-il sa gloire dans le Nouveau Testament ?», j'aimerais m'appuyer sur l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 14 et 16 à 18. Cédons la parole à notre lectrice.
Celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé.
Selon l'apôtre Jean, nous contemplons la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Car plus nous connaissons Jésus, plus nous apercevons quelque chose de la gloire de Dieu. D'abord, son incarnation dévoile la gloire de Dieu. L'incarnation est un mot qui décrit le mystère merveilleux que voici. Dieu est devenu homme en la personne de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu est réellement présent avec son peuple. En la personne de Jésus, Dieu dévoile sa puissance et sa justice, mais il révèle surtout son amour et sa compassion, sa patience et sa miséricorde. Toutefois, l'apôtre Jean met l'accent surtout sur la gloire de la grâce de Dieu, telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. La grâce, c'est l'amour immérité que Dieu accorde aux hommes pécheurs. La gloire et la grâce de Dieu se voient surtout lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Par amour pour nous, Jésus s'est livré en sacrifice pour nos péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Or, ce sacrifice satisfait la justice de Dieu, car Jésus y a porté nos péchés. Il a subi un juste châtiment et a vécu l'abandon du Père. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, les hommes et les femmes pécheurs peuvent recevoir le pardon de leurs fautes et se réconcilier avec Dieu le Père. Nous n'avons plus à craindre ni sa condamnation, ni son châtiment. Nous jouissons de son amour et nous sommes destinés à la résurrection pour la vie éternelle. Vraiment, lorsque nous méditons sur les privilèges et les bienfaits de notre relation avec Dieu, obtenus grâce à la mort de Jésus, nous ne pouvons que nous émerveiller devant la gloire éblouissante de Dieu. Oui, en Jésus, la grâce et la gloire de Dieu scintillent comme la plus belle des étoiles dans les cieux.
Merci Didier. Nous remercions nos deux invités d'avoir orienté nos regards vers la beauté de la gloire de Dieu. Ils seront tous deux de retour parmi nous lors de notre prochaine émission et nous poursuivrons alors notre étude sur le livre de l'Exode.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.